Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine en RDC. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Faustin Kwadiasala. Il est journaliste et il est directeur de publication du journal Econews paraissant à Kinshasa. Bonjour Faustin Kwadiasala.
Oui, bonjour Guy, c'est un plaisir de vous retrouver.
Merci, un plaisir partagé. Maître Frédéric Kwamba, membre de la société civile, il est membre du conseil d'administration de l'ONG Afia Mama Asbel. Il est également avocat au barreau de Kinshasa Gombe et à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et membre du groupe d'intervention judiciaire de l'Organisation mondiale contre la torture OMCT en sigle. Bonjour Maître Frédéric Kwamba.
Bonjour Monsieur Guy et bonjour à tous les auditeurs.
Et en ligne depuis la ville de Paris, capitale de la France, Madame Anne Sylvestre, elle est journaliste au journal Le Monde, elle est chef du service Afrique. Bonjour Madame Anne Sylvestre.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci, à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours des 7 derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Faustin Kwadiasala. Il est journaliste, il est directeur de publication du journal Econews, paraissant à Kinshasa. Maître Frédéric Kwamba, il est membre de la société civile, il est également membre du conseil d'administration de l'ONG Afia Mama Asbel. Il est également avocat au barreau de Kinshasa Gombe, à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, et membre du groupe d'intervention judiciaire de l'Organisation mondiale contre la torture OMCT. Et en ligne depuis la ville de Paris, capitale de la France, Madame Anne Sylvestre, elle est journaliste au journal Le Monde et elle est chef du service Afrique. Trois sujets au menu de cette mission, à savoir le Conseil de sécurité adopte une résolution exigeant le retrait des troupes rwandaises de la RDC. Conflit dans l'Est de la RDC, l'Union européenne suspend ses consultations sur les questions de défense avec le Rwanda. Et enfin, la République démocratique du Congo suspend les exportations du cobalt pour 4 mois afin de maîtriser l'excédent sur les marchés internationaux. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet des explosions qui se sont produites jeudi 27 février à Bukavu. En effet, les explosions survenues ce jeudi 27 février au meeting du M23 ont fait plusieurs morts à la place de l'indépendance à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. La présidence de la République et des sources locales parlent de plusieurs morts. Le président Tshisekedi a condamné fermement cet acte terroriste odieux qui a été perpétré par une armée étrangère présente illégalement sur le sol congolais, indique les services de communication de la présidence. Au cours de ces rassemblements populaires organisés par le M23 AFC, deux engins explosifs ont été lancés dans la foule, causant plusieurs morts et des blessés, selon des témoins. Les bilans provisoires seraient de plus de 10 morts et d'une soixantaine de blessés. La ville de Bukavu est sous occupation des rebelles du M23, soutenus par le Rwanda depuis 10 jours. Les rassemblements ont été tenus par des membres du directoire de la Alliance Fleuve Congo AFC en sigle, dont Corneille Nanga et Bertrand Bissimwa rapportent d'autres sources. La population venue les écouter s'est dispersée après cette explosion. Faustin Kwadiasala, comment vous réagissez à cette information faisant état de ces explosions survenues à Bukavu et qui ont fait plusieurs victimes?
Merci pour la question.
D'abord, la première réaction d'un Congolais normal, c'est la colère et la compassion en même temps. Parce que la colère, évidemment, il y a des morts de plus. Et la compassion, parce qu'il y a des morts qui ont perdu leur vie, des étudiants atroces. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait pas dire exactement qu'est-ce qui s'est passé à Goma, qu'est-ce qui s'est passé à Bukavu plutôt. Parce que chacun a quitté l'état des rebelles. Il essaie de tirer la couverture de son côté. Mais ce qu'il faut regretter, c'est qu'il y a encore des morts qui se sont ajoutés sur la liste de millions de Congolais qui sont déjà tombés à l'Est depuis les 30 dernières années. Maintenant, on se demande jusqu'à quand le monde civilisé va réagir pour arrêter cette barbarie. Parce que il y a plus de 10 millions. Plus de 10 millions de morts comptabilisés, on ne sait pour quel. Des gens qui sont fauchés pour quelque chose, tenir les aboutissants et qu'on continue encore à compter. C'est pourquoi le monde doit se mobiliser pour arrêter cette barbarie qui laisse la RDC.
Merci. Maître Frédéric Kouamba, qui aurait intérêt dans les contextes du moment à poser un tel acte?
Bon, je commence par souscrire à ce que M. Faustin vient de dire, qu'il y a colère et compassion parce qu'il y a eu mort d'homme. Qui aura intérêt dans cette situation? Vous savez qu'il y a un principe qui dit que dans le règne animal, il n'y a que l'agneau qui va à l'abattoir sans crier. Donc l'innocent souvent ne crie pas. Ici nous sommes dans une situation où chacun crie qu'il s'agit de l'autre. Donc, des accusations réciproques après ces faits que nous déplorons tous. Mais à mon niveau, je dis qu'il faut toujours, quand les faits arrivent comme ça, il faut arriver d'abord, avant de tirer les conséquences ou les conclusions, arriver à insérer les hypothèses de faits dans les hypothèses légales. Parce que si on n'arrive pas à le faire, ça sera difficile. Il y a eu un cas accidentel ou préparé ou monté de toutes pièces, on ne sait pas. Mais de la manière dont on présente les faits, il y a plusieurs questions. Parce qu'il y a des versions qui nous disent, par exemple, que l'engin a été posé et les autres qui disent que c'était un engin qui a été placé ou posé ou jeté sur les lieux. Mais il y a eu quand même des conséquences qu'il y a eu mort d'homme et de plusieurs personnes. Donc, à ce stade ici, on ne sait pas charger une partie de tous ceux-là qui s'entrechoquent en se rejetant la responsabilité jusqu'à ce qu'il y ait des enquêtes, parce qu'il faut rétablir les responsabilités en toutes circonstances. Donc on ne peut pas laisser un cas pareil sans suivi. Donc il faut qu'il y ait des enquêtes appropriées pour arriver à déterminer les auteurs pour qu'ils répondent de leurs actes. Mais à ces jours, savoir qui est responsabilité, nous sommes dans une situation complexe et difficile.
Merci, Madame Anna Sylvestre. Justement, les partis s'accusent mutuellement. Dans ces chaos, au-delà des forces belligérantes sur le terrain qui sont bien identifiées, notamment les FRDC, les alliés Wazalendo, et de l'autre côté, les M23 AFC soutenus par le Rwanda, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un troisième acteur ou plusieurs autres acteurs tapis dans l'ombre?
Moi, j'ai surtout l'impression que cette situation est extrêmement trouble. On voit que les uns, c'est-à-dire d'un côté le gouvernement et de l'autre, le M23 se renvoie la balle dans ce crime hein, qui rajoute du sang à la guerre et qui évidemment est déplorable. Ce que l'on peut dire, au-delà de qui sont les auteurs, puisque pour l'instant on ne le sait pas et il faudrait évidemment une enquête pour que cela soit statué, c'est que cela semble rendre encore plus difficile les médiations, les tentatives de pourparlers et de cesser le feu pour que le calme et un semblant de paix puissent revenir dans cette région de la RDC et notamment à Bukavu, là où ont eu lieu ces deux explosions.
Merci. On prend une petite pause en écoutant Amani de Mac El Sambo. Amani, cette paix à laquelle le peuple congolais aspire depuis plusieurs années. On écoute donc Amani et on se retrouve juste après.
Amani. Abani Tuna uawa, tuna chinjwa, tuna bakwa Dunia nzima, ya nyamaza, hawasemi kitu Mambo haya yaishe, amani ya kudumu ikae Twa amuru usalama Senyamaze silaha maisha tupatera Viongozi wa inchi umalize hizi mavita Mkongo mani nae aishi katika amani Mkongo mani nae afaidike na mali ya inchi yake Les armes face aux crimes commis au Congo, le monde entier doit se lever, passer par les voies légales pour accéder aux richesses congolaises. Au lieu de créer des groupes armés pour tuer les Congolais, au lieu de tuer.
C'était Amani avec l'argument congolais Mac Elsambo qui, à travers cette chanson, prône le rétablissement de la paix en RDC. On revient à la côté de cette semaine. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité, vendredi 21 février, une résolution condamnant directement le Rwanda pour son soutien à l'offensive du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo et réclamant le retrait immédiat de ses troupes. La même résolution appelle le M23 à cesser les hostilités en RDC et le Rwanda à mettre fin à son soutien au M23. Dans cette résolution, le Conseil condamne fermement la prise de contrôle par le M23 le 28 janvier de Goma, la capitale de la province du Nord Kivu, ainsi que de son aéroport international. Il condamne également la prise par les rebelles le 14 février de Bukavu, la capitale du Sud Kivu. Le Conseil décide que le M23 doit immédiatement cesser les hostilités, se retirer de toutes les zones sous son contrôle et démanteler les administrations parallèles illégitimes mises en place sur le territoire de la RDC. À cette fin, le membre du Conseil salue les efforts régionaux déployés par l'Union africaine, la communauté de l'Afrique de l'Est et la communauté de développement de l'Afrique australe pour mettre en œuvre un cessez-le-feu immédiat. Dans cette perspective, il se déclare disposé à envisager que la mission de paix des Nations Unies, la MONUSCO, puisse jouer un rôle dans l'application et le suivi d'un futur accord. Maître Frédéric Kwamba, vous êtes membre de la société civile, vous êtes membre du conseil d'administration de l'ONG Afia Mama Asbel, également avocat au barreau de Kinshasa Gombe à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et membre du groupe d'intervention judiciaire de l'Organisation mondiale contre la torture OMCT en sigle. Vous avez choisi de nous parler de ce sujet. On vous écoute.
Évidemment, Monsieur Guy, il y a eu une résolution avec obligation faite au Rwanda, mais je pense que le Conseil de sécurité, et y compris les Nations Unies, ont presque failli à la mission pour laquelle les Nations Unies ont été créées. L'Organisation des Nations Unies a été créée et c'est palpable. Parce que des décisions pareilles se prennent dans toute une ambiguïté. Au même moment, il y a une obligation faite au Rwanda et également on demande les résolutions prises au niveau de la région qui tendraient vers des négociations ou des pourparlers où le Rwanda sera aussi appelé à la même table. Vous comprenez que On ne peut pas choisir ces deux options et s'attendre à ce que on aboutisse à des solutions durables. Donc, nous reconnaissons du moins que les conseils de sécurité a ce rôle-là dans le maintien de la paix et la sécurité internationale. Mais en ce qui concerne les conflits à l'est de la République démocratique du Congo, nous pensons qu'on peut aller même très loin pour solliciter aux États membres des Nations Unies de commencer déjà à réfléchir à la création d'une autre organisation qui sera peut-être à mesure de régler des questions pareilles. Parce que lorsque les Nations Unies étaient créées, il y avait d'autres problèmes au niveau mondial qui menaçaient la paix. Mais aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'évolutions, mais l'Organisation des Nations Unies est restée dans sa pratique de menacer sans rien faire par après. Moi, je pense que les décisions pareilles ou les résolutions pareilles pouvaient peut-être nous être utiles si on avait des cas d'espèce où certaines résolutions ont amené des États à trouver des solutions. Et si je dis qu'on doit arriver à recréer ou à créer une autre organisation, c'est parce qu'aujourd'hui, devant une décision, parce que le Rwanda a le langage qu'il peut comprendre, pas le langage des sanctions, vous avez suivi son président de la République, le dire tout haut, qu'il ne peut pas avoir peur des sanctions. C'est-à-dire que c'est un État qui s'est préparé à toute éventualité. Et aujourd'hui, le Conseil de sécurité va prendre une résolution dans le sens où le Rwanda était déjà préparé. Donc il n'y a rien d'efficacité, il n'y a rien qui pourra contraindre le Rwanda de quitter le sol congolais. D'où la RDC, la République démocratique du Congo, doit fournir des efforts pour compter sur son potentiel. Éviter chaque fois d'attendre que la solution viendra de la communauté internationale ou des alliés. Donc, nous devons arriver à compter d'abord sur ce que nous avons et tendre vers des solutions. Et la solution, je le dis, ce n'est pas seulement la guerre, parce que la solution peut être dans les pourparlers, parce qu'il n'y a aucune guerre qui a apporté la paix. Donc, la paix ne peut être gagnée que par des gens qui se parlent, qui sont à mesure de se parler et de placer devant eux les problèmes ou les nœuds du problème et essayer de trancher. Donc pour moi, on peut faire oublier un peu cette histoire de résolution qui n'apportera rien et de tendre vers des solutions qui pourront être mûries au niveau de la République avec les potentiels que nous avons, parce que c'est toujours possible.
Merci, Madame Anna Sylvestre. Vous êtes journaliste au journal Le Monde. On sait que les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies ont un caractère contraignant, mais depuis que la résolution 2773 a été adoptée, ça fait maintenant une semaine, sur le terrain, les choses ne se passent pas comme, n'est-ce pas, l'ont exigé les membres de cette instance, notamment le retrait immédiat du Rwanda du sol congolais. Est-ce qu'on ne risque pas, une fois de plus, d'assister à des décisions qui, malheureusement, restent lettres mortes?
Oui, vous le dites, Guy, ça a un caractère contraignant, mais en fait, en théorie, finalement, quels sont les moyens dont dispose le Conseil de sécurité des Nations Unies pour faire appliquer ces résolutions? Je crois d'abord qu'on peut quand même déplorer le temps qui a été nécessaire pour que cette résolution soit prise. Je veux dire, ça fait maintenant un mois qu'on assiste à cette nouvelle offensive. Là. Ça fait un mois que Goma a été prise par le M23 et ça fait depuis novembre 2021 qu'il y a de façon générale dans l'est de la RDC cette nouvelle offensive du M23. Il y a eu plusieurs rapports des experts des Nations Unies sur la situation. Assez vite, les Nations Unies ont été informées, ont eu des informations sur ce qu'il se passait précisément dans l'est de la RDC. Et là, seulement, cette résolution arrive dans l'urgence, alors qu'il est déjà d'une certaine façon, un petit peu tard. Je suis d'accord avec vous, Guy, on se demande si, une fois de plus, cela ne va pas rester lettre morte. Les casques bleus qui sont sur place n'ont en tout cas pas les moyens de faire appliquer sur le terrain cette résolution. Donc, il reste la voie, à mon avis, de la négociation, voire des sanctions. Et cela, c'est également extrêmement compliqué, comme on le voit en ce moment.
Merci, Faustin Kondiassala, journaliste. Vous êtes directeur de publication du journal Econews paraissant à Kinshasa. Dans cette résolution 2773, le Conseil de sécurité décide que le M23 doit immédiatement cesser les hostilités, se retirer de toutes les zones sous son contrôle et démanteler, n'est-ce pas, les administrations parallèles illégitimes mises en place sur le territoire de la RDC. Et comment cela pourrait se concrétiser dans un contexte, n'est-ce pas, où il y a un certain déséquilibre des rapports de force sur le terrain des opérations?
Merci Guy pour la question. Je voulais rebondir en partant de ce que Mme Anne vient de dire tout à l'heure. Là. Vous savez, ce conflit-là à l'Est, qui a été marqué par la résurgence du M23, c'est depuis novembre 2021. Madame Anne vient de le souligner tout à l'heure là. Et pourquoi le Conseil de sécurité des Nations Unies a laissé la situation courir sur le terrain jusqu'à ce que les grandes villes comme Goma et Bukavu tombent pour que finalement ils se ressaisissent et prennent des résolutions? Moi je crois en tant que Congolais, on ne peut pas continuer à être naïf. Je crois même les auditeurs qui nous suivent, ils peuvent bien se rappeler qu'il n'y a aucun conflit au niveau planétaire qui a été résolu par une résolution des Nations Unies. Je m'excuse de la tautologie, évidemment. C'est pour dire que, en fait, c'est-à-dire, même les Nations Unies se retrouvent démunies. Parce que vous prenez une résolution en contraignant les Rwandais à retirer ses troupes de la RDC. Or, à Kigali, on est en train de présenter le conflit du M23 comme un problème congolais. Et même si on devait remonter un peu plus loin, le premier grand rapport fourni par les experts des Nations Unies, c'était autour de 2001, le fameux rapport Mapping. Le rapport Mapping contenait des résolutions, des recommandations et des contraintes, en citant même des gens et des entreprises qui étaient impliqués dans l'instabilité de l'Est. Quel est ne serait-ce que cet individu ou ce pays qui a été déjà mis en cause, ou peut-être sanctionné par rapport à tout ce qui a été dit dans les rapports Mapping? Rien du tout. C'est pourquoi, moi, je parle évidemment en tant que Congolais, par patriotisme, il faut que nous nous disions quelque part que non, nos problèmes, c'est à nous d'abord de les résoudre. Parce que les Nations Unies vont prendre des résolutions, comme toujours, évidemment. Mais il ne faut pas oublier que ils ont une présence permanente ici depuis 1999. C'est la MONUSCO. La MONUSCO, les Nations Unies lui ont donné tous les moyens nécessaires, autant en hommes qu'en matériel, pour ramener la paix dans l'Est. Aujourd'hui, la MONUSCO se retrouve presque dans un trou noir. Goma est tombé, il y avait des troupes de la MONUSCO qui étaient sur place. Bukavu est tombé, il y avait une base de la MONUSCO qui était sur place. Qu'est-ce qui a manqué à toutes ces forces-là?
On rappelle que depuis l'année dernière, la MONUSCO avait quitté le site Kivu, donc au Bukavu.
Bien sûr, ils ont quitté le site Kivu, mais il y avait une présence dissuasive au niveau de l'aéroport de Kavumu. Ça, nous le savons. Et l'aéroport de Kavumu est tombé comme un fouet mur. Aucune balle n'a été tirée par les troupes qui étaient présentes à ces jours-là. C'est pourquoi moi je crois maître l'a rappelé tout à l'heure là. C'est-à-dire il faut que nous organisons, nous, au niveau des Congolais. Parce que la solution à nos problèmes ne viendra même pas de Bruxelles. Ils ne viendront même pas de Washington. Encore moins de New York aux Nations Unies. Parce qu'aujourd'hui, moi ça me fait très mal quelque part qu'on présente le Rwanda comme un super pays, une super puissance, qui peut mater tout un pays, le Grand Congo. Et chaque fois qu'il y a un problème à l'Est, on court voir l'Union Européenne, on court voir les Nations Unies. Non, regardez, le Rwanda vient encore de nous frapper. Mais qu'est-ce qui nous manque, nous, de frapper aussi Kigali? Il ne faut pas que nous continuions à pleurer tout le temps comme ça. Parce que comme si chez nous, on est habitué, bon, quand il y a une résolution qui est prise, tout le monde applaudit, tout le monde place à la télé, on dit non, c'est une victoire diplomatique. Mais la diplomatie ne va pas résoudre les problèmes tant que les rapports de force ne jouent pas en notre faveur. C'est ce qu'on doit comprendre. Et c'est pas cette résolution, la fameuse 2773, qui va résoudre les problèmes. Pas du tout. Nos problèmes, nous allons les résoudre quand nous serons en mesure d'imposer la paix dans notre pays et de contraindre nos voisins à nous respecter.
Merci.
Et la meilleure façon de contraindre nos voisins à nous respecter, c'est de se doter d'une armée forte. C'est tout.
Merci Faustin, merci chers auditrices et chers auditeurs. L'actualité en RDC est aussi l'actualité musicale. Le 13 février dernier, les mélomanes de la musique congolaise ont commémoré la disparition de Kisangani Espérant Djengaka, ce chanteur, compositeur et parolier qui a évolué dans les orchestres Viva la Musica et Langa Star. Djengaka nous a quittés le 13 février 1995 à Kinshasa à l'âge de 42 ans. Et pour lui rendre hommage, on va écouter l'un de ses classiques intitulé Péché mortel, cette chanson qu'il avait composée en 1982 dans l'orchestre Langa Langa Star, et elle revient juste après.
Péché mortel, maman, lissoumouli santou, kolima, Fidélité, Zala, Nere, Assistant, Naïve.
Lisi, Bali, Pati, Maï, Zama, et Pati, Maï, Poye, Aope, Paris, Zalite, Mama. Lisa, Zama, Pata, Vike, la Mondia, Sebe, Dio, Kerima, Mawa, Sepo, Naya, Nashi, Bato, Zala, Kima, Naya, Lisa, Mawa, Lela, Yo, Soko, Mi, Bangu, Nana, Naya, Soko, Mi, Kolu, Kana,
Bonne année, maman. na sala kuboni kona ya mama aye toto mapasa aye mabiso ta aye mama mana mute na sala kuboni kona ya mama chérie nalinga kaya migo oh oh mama e nalinga kaya migo oh oh koti e libala ya kosa nima oh koti e libala ya kosa nima nalia e oh mama e nalela linga ma tome tano ina kama olipe koti balolo nani e
Capi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine en RDC. Je rappelle que chaque samedi, à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire au sujet des explosions qui se sont produites jeudi 27 février à Bukavu. Nous avons également analysé l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2773 condamnant directement les Rwandais pour son soutien à l'offensive du M23 dans l'est de la RDC. participe à cette émission. Faustin Kouyassala, il est journaliste et il est directeur de publication du journal EcoNews, Paris Saint-Kinshasa. Maître Frédéric Kwamba, il est membre de la société civile, il est membre du conseil de l'administration de l'ONG Afiamama Asbel, il est également avocat au barreau de Kinshasa Gombe à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et membre du groupe d'intervention judiciaire de l'Organisation mondiale contre la torture OMCT en sigle. Et en ligne depuis la ville de Paris, capitale de la France, Madame Anna Sylvestre, elle est journaliste au journal Le Monde et elle est chef du service Afrique. La haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas, a annoncé lundi 24 février la suspension des consultations en matière de défense avec Kigali en raison de l'implication des troupes rwandaises aux côtés des rebelles du M23 dans l'est de la RDC. À l'issue du Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne, Kaja Kallas a déclaré « Les consultations sur les questions de défense avec les Rwandais ont été suspendues. Il y a également une décision politique d'appliquer des sanctions selon l'évolution de la situation sur le terrain. Nous avons demandé au Rwanda de retirer ses troupes du territoire de la RDC. » L'Union européenne appelle le retrait des forces rwandaises de la RDC et prévoit de réexaminer les protocoles d'accord sur les matières premières et critiques conclus avec le Rwanda. Madame Anna Sylvestre, vous avez souhaité nous parler de ce sujet. On vous écoute.
Oui, j'ai souhaité parce qu'évidemment, depuis cela m'interpelle. Je vais peut-être me répéter par rapport au point précédent, mais ce qui me semble à souligner dans cette affaire, c'est à quel point la réaction, qu'elle soit des Nations Unies, qu'elle soit européenne, ou bien qu'elle soit américaine. On a vu finalement Marco Rubio, le nouveau secrétaire d'État, prendre la parole cette semaine, mais tout cela est bien tard face à la situation. Et voilà, on peut quand même s'étonner quand on fait le parallèle avec 2012. Souvenez-vous, en 2012, lorsque déjà le M23 était entré dans Goma, eh bien, les États-Unis, l'Allemagne, la Suède, le Royaume-Uni, l'Union européenne, la Banque mondiale, ils avaient tous suspendu leur aide. C'était 240 millions de dollars d'aide au Rwanda. Barack Obama avait pris son téléphone, il avait appelé le président rwandais, et finalement, le M23 a reculé. Alors, on ne va pas refaire l'histoire, on ne sait pas ce qui se serait passé fin janvier, si tous ces États, toutes ces organisations avaient décidé de prendre des décisions fortes, mais en tout cas, on peut peut-être regretter que, alors qu'un pays pénètre sur le territoire d'un autre pays, eh bien, il faille des semaines pour que des décisions soient prises, pour que des déclarations soient faites et que des petits bouts d'aide soient remis en question, remis en cause. Évidemment, il faut le déplorer pour l'Est de la RDC, mais je crois que par ailleurs, c'est le symptôme, peut-être malheureusement, de ce qui est en train de se passer un peu partout sur la planète, sur le plan international. On le voit effectivement à l'est du Congo, mais on le voit aussi en Ukraine, on le voit un peu partout et on ne peut qu'en s'en alarmer quand aujourd'hui le président américain dit qu'il a des vues un jour sur le Groenland, le lendemain sur le Panama. Tout cela, à mon avis, n'est pas de nature à rassurer tous ceux qui croient encore au droit international.
Oui, Madame Anna Sylvestre, Madame Kaja Kallas, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a annoncé la suspension des consultations en matière de défense avec Kigali. Et vous pensez que le Rwanda pourrait avoir la capacité de se passer de toutes ces facilités dont il bénéficie depuis plusieurs années de la part de l'Union européenne?
Déjà, il faudrait voir concrètement quelle forme ça va prendre, sous combien de temps, etc. Quels sont réellement les moyens de l'Union européenne pour... mais par ailleurs...
Votre ligne s'est détériorée une fois de plus, hein?
Ah, je suis vraiment désolée.
Allô, vous disiez?
Oui, je disais, il faut voir quels sont les moyens de l'Union européenne pour appliquer ces déclarations. Par ailleurs, vous pensez que le Rwanda pourrait avoir des moyens de faire face, notamment en nous des partenariats bilatéraux par le passé.
Merci, Faustin Kouyassala. Ces annonces de l'Union européenne, si elles peuvent inquiéter d'une certaine manière le Rwanda, pourraient-elles effectivement fragiliser son système de défense?
Bon, disons, bon, évidemment, c'est la réponse est relative, Guy. Vous savez, il faut quelquefois, dans l'analyse de ce qui se passe dans la région de Grand Lac, il faut aussi écouter les paroles des sagesse des chefs de l'État de la région. Je prends par exemple le président Denis Sassou Nguesso, qui connaît très bien le problème pour avoir été longtemps au pouvoir. Il a appelé au monde, à l'Afrique, à la RDC, à tout le monde, que les sanctions ne vont pas résoudre le problème. Et même l'Angolais, Joël Lourenço, qui pilotait avant le processus de Luanda, l'avait encore dit que la solution militaire ne va pas ramener la paix dans l'Est. Évidemment, pour l'instant, Kinshasa reste des membres. Il estime qu'il ne peut pas, dans un premier temps, dialoguer avec les belligérants du M23. Pour Kinshasa, il estime que l'interlocuteur valable, c'est le Rwanda. Une option qui ne passe pas non plus du côté de Kigali. Parce que Kigali ne veut pas se positionner comme le principal interlocuteur dans ce qui se passe dans l'Est. Même si on sait que derrière le M23, c'est l'armée rwandaise qui opère. Mais pour revenir sur les sanctions, il faut quelquefois aussi lire les statistiques. Ne serait-ce que par rapport au volet économique. Parce que quand on dit aujourd'hui que l'Union européenne va suspendre, l'Union européenne ne dit même pas qu'elle a suspendu, qu'elle a annulé. Elle dit juste qu'elle a suspendu les consultations avec le Rwanda. Maintenant, il faut se poser la question, si on lisait la balance commerciale du Rwanda, quels sont les partenaires commerciaux du Rwanda? Vous allez vous rendre compte que le premier produit d'exportation du Rwanda, c'est l'or. Et l'or qui est exporté au Rwanda, le client, c'est le Qatar. Le deuxième produit minier d'exportation au Rwanda, c'est le coltan. Et le coltan qui est vendu par le Rwanda, le principal client, c'est la Chine. C'est pour dire que l'Union européenne est dérisoire. C'est que quelque part, c'est comme si, vu de Kinshasa, on semble se tromper de cible. Le vrai partenaire économique du Rwanda aujourd'hui, c'est la Chine et le Qatar. Mais on met plus l'accent sur l'Union européenne, alors que l'Union européenne pèse moins dans la balance commerciale du Rwanda. C'est pourquoi le ministre des Affaires étrangères rwandais a minimisé ces sanctions. Il estime que ces sanctions ne vont pas les perturber. Et je crois que les chefs d'État de la région ont encore raison de dire que non, ces sanctions ne vont pas résoudre le problème. Je crois maître l'a souligné tout à l'heure là. Dans ce qu'ils font depuis toujours, le Rwanda s'est préparé depuis très longtemps. Il savait que là, il y aura un moment où ils seront butés à prendre des sanctions, où le monde se lèvera contre eux. Et ils savent comment contourner tout ça. Et quand l'Union européenne, qui a été prudente d'ailleurs, parce que moi je considère que l'option levée par l'Union européenne, c'est juste pour apaiser un peu Kinshasa. Parce que quelque part l'Union européenne sait qu'elle ne pèse pas trop dans les échanges commerciaux avec le Rwanda. Et si nous à Kinshasa, on devait décourager les partenaires commerciaux du Rwanda, il faut maintenant aller à la Chine. Où va tout l'or exploité frauduleusement à l'Est? Il faut qu'on aille vers le Qatar. Où va tout le coltan exploité frauduleusement dans le Kivu? Et l'Union européenne dans tout ça, ne se retourne pas. C'est pourquoi au-delà des sanctions, au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme résolution, en tout cas, il n'y a aucune guerre qui n'a été résolue par les armes. Faut faire, on se rend compte à l'évidence, à partir de Kinshasa, que ça ne sert à rien de laisser la situation pourrir sur le terrain, parce que aussi longtemps qu'on est intransigeant sur certaines positions, il y a des Congolais qui meurent. Il y a des familles qui sont dispersées. Je lisais tout à l'heure là le rapport des Nations Unies sur la crise humanitaire qui se vit dans l'Est là. C'est catastrophique. C'est que quelque part, il faut qu'on se dise non, il faut que ça s'arrête. Évidemment, les sanctions, ça c'est de mon point de vue, ne vont pas résoudre le problème. Bien au contraire, ça va encore créer d'autres situations qui vont encore rendre l'équation beaucoup plus complexe.
Merci, Maître Frédéric Kwamba. Je vous pose la même question que j'ai posée à Mme Anna Silvestre. Hein. L'Union européenne a annoncé la suspension des consultations en matière de défense avec Kigali. Vous pensez que le Rwanda pourrait avoir la capacité de se passer de toutes ces facilités dont il a toujours bénéficié, n'est-ce pas, de la part de l'Union européenne?
Moi, je pense que oui. Au regard de ce qui se passe et des effets même de ces décisions, je crois que le Rwanda s'est vraiment préparé et savait que ceci pourrait arriver. Autre chose, c'est la consultation ou les consultations dont il est question ici. Ces consultations constituaient quel type de convention? C'était des conventions qu'on appelle synalagmatiques ou c'était des conventions d'adhésion? Parce que c'est vraiment étonnant que vous êtes dans des consultations et qu'une partie, unilatéralement, prenne une décision de suspendre. Donc on peut tromper tout le monde, mais devant nous qui sommes juristes, nous avons des questions à nous poser sur la nature des consultations. Parce que deux parties qui se lient dans une convention, une partie ne peut pas se réveiller un matin pour vous dire que je suspends sans qu'il y ait des conséquences sur la partie qui a suspendu, surtout que la faute ou la présomption de faute n'est pas attachée aux deux parties liées à ces consultations. C'est une tierce partie qui est la RDC qui va auprès de l'Union européenne et l'Union européenne prend une décision contre une partie liée dans les consultations. C'est infaisable sur le plan du droit. Donc pour moi, je considère que c'est juste une manière de flatter la RDC qui a tant pleuré auprès de l'Union européenne. Il fallait que l'Union européenne arrive quand même à prendre une décision, un semblant de décision comme je l'appelle, pour calmer un peu la RDC. Sinon, cette décision aurait produit des effets dès sa prise. C'est-à-dire que on s'est dit que c'est rien. Autre chose, c'est le passé ou l'histoire nous renseigne très bien. Prenons le cas de l'Ukraine. L'Ukraine qui est à la porte de l'Union européenne. Toute menace contre l'Ukraine est directement déversée sur l'Europe. Mais l'Europe a sanctionné, a pris des mesures de sanctions contre la Russie. Est-ce que la Russie a abandonné? Elle n'a pas abandonné. La Russie a continué. C'est pour dire maintenant la RDC qui est à des milliers de kilomètres de l'Europe. Quelles sont les décisions que l'Europe pourra prendre et qui seront très efficaces plus que les décisions que l'Europe prend, l'Union européenne prend à ses frontières. Donc moi je pense qu'une simple analyse peut nous ramener à conclure que c'est une manière de nous calmer parce que nous pleurons, nous allons pleurer auprès de l'Union européenne et l'Union européenne doit toujours nous trouver une solution, pas une solution en rapport avec ce que nous cherchons, mais une solution qui va nous faire taire. Et vous avez constaté qu'après ces décisions, sur la guerre médiatique qui se passe entre le Rwanda et les M23 et la RDC, vous trouvez que le message des autorités de la RDC, c'est comme si c'était une victoire. Donc ils ont réussi leur coup. Mais nous qui sommes vigilants, nous nous disons qu'il n'y a aucune solution en rapport avec les décisions de l'Union européenne.
Merci, on prend une petite pause en écoutant Mwendi ou Awa de Kassav et on se retrouve juste après. du groupe musical Le Kassav. Le Kassav est un orchestre qui n'est plus à présenter, étant donné que ses chansons ont marqué plusieurs générations. Je rappelle que nous avons dans cette émission Faustin Kodiassal, il est journaliste et le directeur de publication du journal Econews au Paris Saint-Kinshasa. Maître Frédéric Kwamba, il est membre de la société civile, membre du conseil d'administration de l'ONG Afiamama Asbel. Il est également avocat au barreau de Kinshasa Gombe à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et membre du groupe d'intervention judiciaire et de l'Organisation mondiale contre la torture OMCT en sigle. Et en ligne depuis la ville de Paris, capitale de la France, Madame Anna Sylvestre, elle est journaliste au journal Le Monde, les chefs du service Afrique. La République démocratique du Congo suspend les exportations de cobalt pour 4 mois afin de maîtriser l'excédent sur les marchés internationaux. La mesure est entrée en vigueur samedi 22 février selon Patrick Loibéa, président de l'autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques, cité par l'agence de presse Bloomberg. La production de cobalt en RDC, qui fournit environ les 3/4 du cobalt utilisé dans les batteries des véhicules électriques, a fortement augmenté ces dernières années. Cette hausse est principalement due à l'expansion des activités de la société chinoise CEMOC, qui a intensifié l'exploitation des 2 grandes mines du pays, entraînant une offre excédentaire, une baisse de la demande et une chute des prix. Bien que l'interdiction d'exportation s'applique à tous les producteurs sans exception, elle ne concerne que le cobalt et n'aura aucun impact sur les exportations des cuivres, ont précisé nos sources. Faustin Kodiassala, vous avez choisi de nous parler de cette décision portant suspension de l'exportation du cobalt congolais. On vous écoute.
Bon, merci Guy. Je pensais qu'il était intéressant d'échanger autour de cette question, parce que le cobalt, par rapport à notre position au niveau mondial, c'est un produit stratégique pour lequel nous avons un très grand avantage comparatif, compte tenu de nos réserves, évidemment. Mais maintenant, quand la RDC décide du jour au lendemain de suspendre les exportations du cobalt pour 4 mois, sans consulter le producteur, il y a une bonne raison de se poser une question. D'abord, la première chose qu'il faudrait souligner, c'est de savoir qui produit le cobalt chez nous. Vous remarquerez que, depuis le démantèlement de la Gécamines, aujourd'hui, notre secteur minier est tenu par des privés. C'est qu'aujourd'hui, notre cobalt est produit essentiellement par des privés. Et les 3 grands, il y en a notamment CIMOC, que vous avez cité, qui est donné par TFM et Kinsafu Mining. Il y a le groupe Glencore et puis il y a aussi Vanoé avec sa mine de Kamoa. Et ce sont des privés. Et quand l'État se réveille du jour au lendemain, il décide de s'initier dans le cycle d'exploitation des opérateurs économiques privés. Reconnaissez avec moi qu'il y a une entrave aux règles de libre exercice de l'entrepreneuriat. Parce que les mêmes entreprises à qui vous dites n'exportez plus pendant 4 mois, ce sont ces mêmes entreprises qui contribuent au budget de l'État. Parce que si vous leur dites que vous ne vendez pas pendant 4 mois, cela voudrait dire qu'ils n'auront pas de revenus.
Oui, mais
s'ils n'ont pas de revenus, l'État n'aura pas non plus la matière pour imposer.
Oui, Faustin, partir du moment où c'est un minerai dit stratégique et que le gouvernement congolais n'avait pas, n'est-ce pas, des contrôles sur toute la chaîne de production, est-ce qu'on ne peut pas dire que la décision prise par le gouvernement congolais est une décision sanitaire?
Pas sanitaire, forcément dit. Le problème, c'est qu'on se trompe de peuple. Nous, on croit qu'on a toujours la Gécamines qui régnait sur le secteur minier. C'est une vieille époque. Si on était au temps de la Gécamines, le temps qu'on allait pouvoir se réveiller un jour, pour le temps de la Gécamines, ce sont l'entreprise dit non, je ne vends plus. Mais vous ne produisez pas. Parce qu'aujourd'hui, la Gécamines produit combien de tonnes de cobalt? C'est dérisoire. C'est moins de 10% de l'ensemble de nos exportations de cobalt. C'est que ceux qui produisent le cobalt aujourd'hui, et quand l'État se réveille, ils disent que non, vous privez. Il ne prend même pas en compte comment le cobalt a été produit, mais il décide à ce que le privé ne vende pas. Mais comment ils vont fonctionner finalement? Et c'est normal qu'à la suite de cette décision, Simon a mis en place un groupe de travail
pour engager des pourparlers directs avec le gouvernement. Et c'est dit, ça n'a pas de sens. J'ai un budget pour l'année, en termes de production et de revenus. Maintenant, je continue à produire mes litres, non, mais vous ne vendez pas. Parce que l'État congolais estime que non, comme le cobalt c'est une matière stratégique, et comme le prix est en baisse sur le marché, je freine la production, comme ça les prix vont augmenter. Et même si ces prix-là venaient à augmenter sur le marché mondial, qui en sera le bénéficiaire? N'est-ce pas le même privé qui produise? Parce que l'État congolais ne produit pas. En fait, le problème par rapport à cette décision, moi, à mon avis, ça sent l'arnaque. L'arnaque, c'est quoi? On sait comment ça fonctionne chez nous. On prend une mesure, on sait qu'il y aura des entreprises qui seront touchées. Et ces entreprises seront obligées de venir vers vous pour négocier. On sait comment ça se négocie dans notre pays. Il y a certainement des programmes qui vont circuler à gauche et à droite. C'est comme le fameux moratoire dans le code minier, Guy, qui interdit l'exportation des produits semi-finis. C'est inscrit dans notre code minier. Et chaque fois qu'une entreprise veut exporter un produit qui n'est pas au stade final, il est obligé d'obtenir une dérogation du ministre national des mines. Et vous pensez que la signature du ministre est gratuite? On sait comment ça se passe. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette agence-là, ANECOM, agence de régulation, de commercialisation, de matières, aussi c'est stratégique. C'est elle qui a pris la mesure. Et entre-temps, il y a aussi l'entreprise générale du cobalt qui s'est mise dedans, qui estime que non, désormais, tous les cobalt produits en RDC, avant exportation, doivent avoir le quitus de l'EGC. Et qui dit avoir le quitus? Je dois dire qu'il faut avoir la signature. Vous pensez que cette signature va sortir gratuitement?
Merci.
Parce que tous ces grands miniers, tous ces grands miniers de Katanga là, ils se sentent lésés par cette mesure de suspension. Tout le monde est en train de se bousculer au niveau du ministère des Mines pour obtenir la levée de la mesure. Et on sait que la levée de la mesure ne sera pas gratuite. C'est qu'on est poussé dans un but connu de tous. Les gens veulent se faire un peu d'argent, c'est tout. Vous ne produisez pas, mais vous voulez intervenir dans la commercialisation. Commencez d'abord par produire. Comme ça, vous allez agir sur le stock qui est vendu sur le plan mondial.
Merci. Madame Anna Sylvestre, au-delà de tout ça, il est de notoriété publique que l'essentiel de la production du cobalt congolais est contrôlé par les entreprises chinoises. Or, cette décision du gouvernement congolais intervient dans un contexte international caractérisé notamment par cette guerre économique entre les États-Unis et la Chine. Est-ce qu'on ne peut pas établir un lien entre cette guerre froide entre les Chinois et les Américains et cette décision prise par le gouvernement congolais?
Ben, moi, il me semble que cette décision du gouvernement congolais d'abord effectivement à faire remonter le prix du cobalt qui a énormément chuté. Sur le principe, en termes économiques, on peut penser qu'effectivement, couper les robinets de l'offre, et la RDC est l'endroit où il y a le plus de cobalt au monde, permet de faire remonter le cours des prix puisque la demande sera plus forte. Le problème, comme vous le dites, c'est que la Chine détient énormément de stocks de cobalt, donc cela pose des questions. Est-ce que 4 mois sera suffisant, puisqu'on peut penser que de toute façon, elle aura assez de stocks pour écouler. Cela dit, effectivement, cette décision peut mettre dans l'embarras, éventuellement la Chine, en tout cas si cette décision est prolongée, peut mettre dans l'embarras la Chine, et donc, de ce point de vue, par conséquent, de façon incidente, favoriser les États-Unis dans ce contexte géopolitique mondial extrêmement tendu.
Merci, Maître Frédéric Kwamba. On va finir cette émission avec vous. Qu'est-ce que la décision de suspendre l'exportation du cobalt congolais pourrait avoir comme résultat au moment où on n'a pas, n'est-ce pas, suspendu sa production? On va continuer à produire, mais sans exporter. Ça pourrait avoir quel résultat, et sur l'économie congolaise, et sur, n'est-ce pas, l'objectif que la RDC poursuit en prenant une telle décision?
Oui, en connaissance de cause, cette décision pourra produire des chaos. Pourquoi? Parce que elle est injuste, et si elle est juste, elle est prématurée. Et je vais m'expliquer. le fait seulement de suspendre, il y a le premier impact qui est purement économique, parce qu'il y a ce que nous appelons la perte des revenus. Parce que la RDC, vous le savez tous, dépend fortement des exploitations de cobalt par ses exportations. Le fait de boucher, il y a cette perte de revenus, il y a la réduction des investissements parce que les investisseurs étrangers qui viennent dans ce domaine des mines auront peut-être peur de persévérer, d'investir, parce qu'à tout moment, la RDC peut se réveiller et suspendre. Et vous savez, dans le monde des affaires, une simple suspension d'un mois ou de deux mois peut avoir des conséquences. Il y a aussi un autre aspect, parce que parfois, nous prenons des décisions en tant que RDC, taillées à la mesure ou à la costume d'un individu ou de deux individus, mais qui produisent des effets sur tout le monde au même moment, et on s'en fout. Vous savez que le fait seulement de suspendre pendant des mois, il y aura des conséquences sociales, parce qu'il y a la perte d'emploi qui va entrer en ligne des comptes, parce qu'il y a des gens qui ne travaillent que lorsque la production et l'exportation de cobalt tournent. Et la perte d'emploi crée des tensions sociales, parce qu'il y a la réduction des revenus et des opportunités économiques qui va s'inviter à la chose. Et cela finira par engendrer ce que nous appelons des tensions sociales et politiques dans certaines régions qui ne vivent que de l'exploitation de ces minéraux qui est le cobalt. Donc parfois, il ne faut pas prendre des décisions pareilles. Si je dis qu'elle est injuste, c'est par rapport à ce que je viens de dire, mais elle est prématurée si elle est juste. Si c'est pour essayer de conquérir le marché ou bien de jouer sur le prix au niveau international, mais il fallait réfléchir sur la situation de nos populations. On ne prend pas des décisions comme ça. Il faut réfléchir. Il y a des gens qui vivent, qui nourrissent des familles, qui font étudier les enfants et qui ont des opportunités économiques. Donc, il y a toute une machine que l'on suspend uniquement parce que on veut une concurrence au niveau international. Ça ne se prend pas comme ça, ce genre de décision. C'est pourquoi je dis que soit la décision est injuste ou elle est prématurée. Il fallait peut-être attendre, faire des réserves pour prendre en charge nos populations qui vivent de cette exportation et prendre une décision par après, ou bien ne pas prendre cette décision parce que la situation que traverse la RDC aujourd'hui, on ne peut pas s'aventurer à empêcher les recettes. Donc je la trouve vraiment, vraiment injuste.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Madame Anna Silvestre, Monsieur Faustin Kodiasala et Maître Frédéric Kouamba. Merci aussi à Dieudonné Nyangasa qui était la technique avec la participation de Christian Lomoumbe, Didier Dadi et d'Hervé Voka sous la supervision de Martin Sebujangoué. À la présentation Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 20h heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Belotti. Cet autre classique de Kisangani Espera Djengaka, une façon pour nous de continuer à le rendre hommage à l'occasion de la commémoration de la date de sa mort. On écoute donc Belotti et on se retrouve le samedi prochain.
La sirena moroca. 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 La s encore, ça est tout.
Tout en haut,